Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. À quelques semaines des élections européennes, nous nous intéressons ce soir à l'Europe des migrations. Partout en Europe, les partis anti-immigration semblent progresser dans la bataille des idées. Ils sont au pouvoir en Hongrie et en Italie. Aux Pays-Bas, l'extrême droite de Geert Wilders est arrivée en tête aux élections législatives de novembre 2023. En Finlande, en Slovaquie et en Suède, l'extrême droite fait partie de la coalition au pouvoir. Au Portugal, c'est le parti Chega d'André Ventura qui est devenu une force incontournable au Parlement. Et dans de nombreux autres pays, comme la France ou l'Allemagne, les sondages portent très haut ces partis anti-immigration. Mais qu'en est-il de la réalité des flux d'étrangers en direction de l'Europe? D'où proviennent les immigrés et quelle est la part des réfugiés parmi eux? Où s'installent-ils pour ceux qui restent sur le sol européen? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder ce soir avec mon invité François Héran.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonsoir François Héran.
Bonsoir.
Vous êtes titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France. Vous avez publié de nombreux livres sur la question de l'immigration, parmi lesquels Immigration, le grand déni, à la République des idées au seuil. Et donc vous avez accepté de venir ce soir nous éclairer sur ce sujet, alors que le Parlement européen a voté hier, mercredi 11 avril 2024, son pacte Asile et Immigration, qui prévoit des contrôles durcis à l'arrivée des migrants sur le sol européen et la mise en place d'un système de solidarité entre les États membres pour leur répartition. Alors de quoi ce texte est-il le nom? Que signifie-t-il selon vous, François Héran?
Alors, il n'est pas intitulé Immigration et Asile, comme c'est l'habitude dans les projets de loi, mais bien Asile et Migration. La priorité, quand même, c'est le traitement des demandes d'asile et le traitement des demandes que l'on souhaite harmoniser à travers l'Europe. Parce qu'évidemment, le grand problème, depuis 2015, depuis la grande vague des arrivées des exilés syriens, c'est que les différents pays européens se sont comportés de façon totalement dispersée. L'Europe n'est pas simplement divisée sur le sujet, elle est déchirée. Enfin, et certains pays en ont pris beaucoup plus que leur part, comme l'Allemagne. La Suède l'avait fait même avant 2015, quand elle était un des rares pays qui répondait aux demandes du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc l'Allemagne a pris ensuite le relais, et puis c'est de nouveau retiré avec le fameux accord entre Angela Merkel et Erdogan au printemps 2016. Et puis d'autres pays ont pris plus ou moins le relais. La France, dans cette affaire, est restée très en retrait.
On va revenir voilà.
Comme ça. Et donc, certains pays ont quasiment rien fait. La Grande-Bretagne est restée complètement à l'écart de l'accueil des immigrés, mais vraiment à des taux très très bas, si on rapporte les chiffres à sa population. Et puis on sait qu'à quel point l'Europe centrale était très, très contre tout ce phénomène. Donc du coup, l'idée d'une répartition équitable de la charge de l'accueil entre les différents pays. Cette idée, elle avait été lancée par M. Juncker, le président de la Commission, en 2015 et 2016, qui avait adopté une solution tout à fait logique. On va tenir compte de la population de chaque pays, de la richesse de chaque pays, de l'inverse du taux de chômage, des choses de ce genre. Mais c'était surtout population et richesse. Et donc, proportionnellement à sa population et sa richesse, chaque pays devra accueillir une partie des demandeurs d'asile. Et ça n'a pas marché. La France était très réticente. L'Europe centrale était arc-boutée contre ce principe. Et donc, ce que fait le pacte d'immigration qui a été voté hier, c'est d'essayer de trouver un autre système, non seulement de contrôle le plus drastique des entrées, mais aussi un autre système de répartition de la charge, avec ces résultats étranges. C'est que certains pays vont effectivement accueillir des demandeurs d'asile, mais d'autres pays participeront financièrement en aidant en contribuant au rejet de la demande d'asile.
En aidant, c'est-à-dire c'est une sorte
voilà.
de taxe, disons, enfin d'amende si on
oui,
accepte.
Oui, mais
pas
c'est présenté les, comme étant une contribution à la politique migratoire, y compris une contribution au développement de la police des frontières, à toutes les procédures qui permettent de rejeter. Donc la solidarité européenne visée dans ce pacte des migrations, une solidarité tout à fait étrange. Vous êtes pour ou vous êtes contre les migrations, vous contribuez de toute façon, soit pour, soit contre. C'est quand même très très spécial.
Alors, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous en pensez en tant que citoyen? Parce qu'on entend d'un côté que c'est le plus dur des durcissements qui a été fait de la politique migratoire européenne, de l'autre côté que finalement ça ne va pas assez loin. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que on est au bon endroit?
C'est toujours la vieille histoire dans les politiques migratoires. On va durcir et on va être ferme.
C'est ce qui est dit, c'est ce qui se passe là.
Et les autres n'ont pas été fermes. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été fermes. Ils ont été trop peu fermes, voire laxistes. Nous, on sera fermement fermes. Enfin, alors, évidemment, quand on a un problème de curseur comme celui-là, bah, vous êtes toujours ceux qui poussent le curseur à fond. Et le Rassemblement national, par exemple, n'a pas voté le pacte en estimant que tout ça, que c'était un pacte qui allait développer les migrations, produire un gigantesque appel d'air. Et puis, vous avez à gauche ou à l'extrême gauche, exactement le parti inverse, consistant à dire que ça durcit de façon totalement inhumaine le filtrage des migrants. Donc, le curseur peut toujours être déplacé. Vous pouvez toujours pratiquer la surenchère.
Mais en l'occurrence, est-ce que vous avez le sentiment que l'équilibre qui a été trouvé est bon ou est-ce que vous jugez mauvais?
Non, je pense que... Alors, c'est le grand argument de Ursula von der Leyen et de Ylva Johansson, la commissaire européenne spécialisée dans le sujet, l'équilibre. Mais tous les gouvernements qui répriment, qui renforcent le durcissement des migrations, ajoutent toujours un volet humanitaire et invoquent toujours, jouent toujours sur cette rhétorique du humain mais ferme ou ferme mais humain. Enfin bon, c'est vraiment une très très vieille histoire et je l'avais analysé d'ailleurs dans le cours que j'avais consacré à la rhétorique des migrations. J'avais analysé un peu tous les exemples donnés. Ce qui est particulier, qu'on voit vraiment très fort maintenant, qui existe aussi dans les discours d'Emmanuel Macron, c'est un usage étrange du mot « protection ». Il faut se protéger. Par exemple, le tweet par lequel la commissaire européenne a annoncé le vote du pacte consiste en dire ben, « ça y est, c'est formidable, ça va être une protection des frontières, une protection des personnes les plus vulnérables, une protection des migrants ». Mais on comprend bien qu'en fait l'enjeu c'est comment protéger les pays de la migration. Hein. Donc ceux que l'on prétend protéger sont aussi ceux dont on veut se protéger. Et là il y a un jeu sur les mots... je pense, ne trompe personne.
Qui rendent les politiques au niveau européen comme au niveau national assez difficiles à comprendre aussi pour les citoyens, puisqu'en effet, tout le monde utilise un petit peu finalement les mêmes mots, protection, durcissement, mais derrière, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond en
si
réalité.
Si vous voulez, le reproche classique qui est fait, notamment à l'extrême droite, c'est que tous ces politiques causent beaucoup, font de grandes annonces, mais finalement ne passent pas à la pratique, ne réalisent pas, et donc là, il y a toute une vision de la politique consistant à dire, mais il faut passer à l'acte, ma main ne doit pas trembler, il faut vraiment... Et on s'aperçoit qu'en réalité, il y a toutes sortes d'obstacles qui font que c'est très difficile de mettre en œuvre les discours les plus durs. On voit que, par exemple, on a beau multiplier le nombre des gendarmes et des policiers à la frontière franco-italienne, durcir les murs dans le Calaisie, et bien les traversées des frontières ont cessé de progresser. Les small boats, comme on dit, les petits bateaux qui franchissent la Manche continuent de progresser. Donc, quand on juge au résultat, on ne voit pas très bien comment ce durcissement des discours produit effectivement une politique efficace.
Donc ça signifie que c'est impossible de vraiment réguler
l'immigration. Je ne dis pas que c'est impossible, mais voyez, je prends l'exemple des passeurs. Plus vous rendez le passage difficile, plus le marché du passage va se renchérir. Et les passeurs, de toute manière, se félicitent de ce que le passage soit de plus en plus difficile, parce qu'ils peuvent augmenter leurs tarifs en conséquence. Et l'idée que l'on pourrait se débarrasser des passeurs parmi lesquels il y a de tout. Il y a des crapules épouvantables, d'une part, c'est tout à fait vrai, puis aussi des migrants qui eux-mêmes aident leurs camarades et qui s'improvisent, et qui vont... Il y a un peu de tout. Hein. Et quand on fait des études de terrain sur le sujet, et plusieurs jeunes chercheurs l'ont fait, c'est quand même assez compliqué. Mais l'idée qu'on va pouvoir, à force d'accumuler des forces de police, des contrôles, se débarrasser des passeurs, est vraiment très naïve, parce qu'en réalité, plus le passage est difficile... plus le problème se pose. Donc c'est un exemple. Hein. Je pense que ces politiques de durcissement hein, sont un peu des rhodomontades.
Au fond, tout le monde sait bien que ça n'aboutira pas réellement
à moins
d'entrée. Et c'est le cas.
Et pour une raison assez simple. C'est que la demande d'asile, mais aussi la demande de enfin, la migration de façon générale, progresse dans le monde, progresse fortement. Depuis l'an 2000, quand on regarde les compilations faites par l'ONU, en gros, 60% de migration en plus, en l'espace de 20 ans. Et donc, l'idée qu'on va pouvoir réduire drastiquement la migration, la demande d'asile, alors que au niveau mondial, mais aussi au niveau européen, les proportions, les progressions sont tout à fait similaires, ça ne cesse de monter. Il y a quelque chose de complètement irréel. Donc, je pense qu'il faut réguler la migration, c'est certain, mais l'idée de la réduire drastiquement me paraît totalement illusoire. Et donc, quand on fait des discours les plus durs possibles, quand on surenchérit dans le durcissement, on vend des illusions.
Alors, François Héran, on pourrait prendre l'exemple de Giorgia Meloni, qui n'a pas davantage que les autres pays endigué les flux migratoires. On pourrait prendre aussi l'exemple de Nicolas Sarkozy, qui, à l'époque, avait annoncé qu'il y aurait beaucoup moins d'entrées sur le territoire français. Dans les deux cas, ça n'est pas ce qui est arrivé.
Et puis, il y a le cas de Viktor Orban aussi. Alors, Giorgia Meloni a fait appel, finalement, à des centaines de milliers de migrants à la demande des entreprises italiennes. L'Italie s'aperçoit qu'elle a besoin de migrants. Et comme, par ailleurs, sa démographie est en berne, ça devient urgent. Viktor Orban, bon, on a un cas extraordinaire. Le gendre de Viktor Orban, qui possède une entreprise de fabrication de composants électroniques, je crois, ou quelque chose comme ça, a dû faire appel à une main-d'œuvre asiatique. Et donc, contrecarrer complètement l'idéologie officielle. Soit dit en passant, enfin, il faudrait quand même le dire, pourquoi en Hongrie, mais aussi dans les pays tchèques, dans les pays baltes, etc., il y a si peu de migrants? C'est pas parce qu'ils ont une politique migratoire efficace, c'est parce que ces pays ne sont pas attractifs. Ce sont des pays d'émigration et non pas des pays d'immigration. Et donc on impute souvent à un discours anti-immigré une réalité qui en fait vient tout simplement de ce que ces pays ne sont pas attractifs.
Alors allons voir un peu, François Héran, avec vous du côté des chiffres. Sur le site d'Eurostat, on peut lire qu'en 2022, 8,5% des résidents européens étaient nés en dehors des frontières de l'Union. Que signifie ce chiffre? C'est-à-dire que 8,5% des personnes résidant dans l'Union sont nées à l'étranger?
Oui, alors c'est pas un chiffre considérable. Hein. 8,5%, ça n'est pas une invasion et encore moins un remplacement. C'est en progression, bien sûr, depuis longtemps.
Donc entre 2000 et 2020, le nombre d'immigrés en Europe est passé de 45 à 75 millions.
Voilà, bon, c'est l'ordre de grandeur que j'avais dit, une augmentation de 60%, quelque chose comme ça. Donc... c'est une moyenne qui recouvre de très fortes disparités, puisque je viens de le dire, dans toute l'Europe centrale, orientale, le chiffre et les proportions sont très basses. En Allemagne, on est plutôt à 19-20% d'immigrés. En France, on est aux alentours de 10-11%. Bon, on peut varier un peu sur les chiffres, mais c'est totalement secondaire. Un pays comme l'Espagne a quasiment rattrapé la France, alors qu'elle est devenue un pays... d'immigration seulement depuis le début des années 2000, dans des pays comme... Alors, les pays qui ont la plus forte immigration dans l'Union européenne plus, hein, c'est-à-dire l'Union européenne plus la Suisse, l'Islande, la Norvège, etc., ben, il y a la Suisse.
Hein, donc, la Suisse accueille beaucoup d'étrangers.
Quelque chose comme, 30% d'étrangers au moins, enfin, quelque chose comme ça, dont la moitié sont européens et la moitié non européens. Le Luxembourg, c'est considérable aussi. Si, c'est encore plus élevé, c'est 40% d'étrangers, sans compter les frontaliers. Hein. Donc, certains pays carrefour, comme la Suisse, comme le Luxembourg, l'Autriche aussi, Chypre, enfin, tous ces pays carrefour ont un très grand nombre d'immigrés dans leur population, mais ces taux, ces proportions d'immigrés qui peuvent paraître très très élevées, on en a de bien plus élevées dans le reste du monde. Mm-hmm. Je rappelle que dans les pays du Golfe, on atteint des proportions considérables. Dans les Émirats, on est à 88% d'étrangers.
C'est peut-être aussi parce que les Émiratis ont beaucoup de mal à donner des papiers, tout simplement, et à accepter dans leur communauté nationale des étrangers, non ?
Alors, il n'y a aucune politique d'intégration, mais les entrées sont tout à fait surveillées, encadrées, traitées par des sponsors, comme on dit, et donc il faut comprendre que les gratte-ciels d'Abu Dhabi ont été construits par une main-d'œuvre asiatique, hein, essentiellement, ou du Proche-Orient, ou du Moyen-Orient.
Vous êtes avec une forte ségrégation
des populations. Et vous voyez, 88%, et quand on est dans la capitale même, ça dépasse 90% d'étrangers. Vous savez, il y a un argument qu'on entend souvent l'extrême droite disant « mais ce serait aux pays arabes d'accueillir la migration arabe ». Mais c'est exactement ce qui se passe. La migration arabo-musulmane est d'abord prise en compte, accueillie par les pays du Golfe. Donc, voilà, il y a des zones du monde où vous avez des taux d'immigration nettement supérieurs à ceux de l'Europe.
Donc en gros, François Héran, c'est la mondialisation qui fait que les migrations partout dans le monde augmentent, que les gens bougent de plus en plus, et cela se retrouve en Europe comme ça se retrouve ailleurs.
C'est un peu ce que la mondialisation est un des facteurs. Il joue par exemple dans le fait que le nombre des étudiants et de tous les courants migratoires est celui qui a le plus progressé. C'est vraiment très net. Et il a progressé en France fortement, c'est le courant qui a le plus progressé chez nous, mais moins que dans le reste de l'Europe. Comment éviter que les études se mondialisent, qu'il y ait une espèce de droit qui commence à se définir de façon implicite, le droit de faire des études dans une bonne université étrangère.
Ce qui fait que dans les 8,5% dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi des étudiants étrangers.
Tout à fait.
Et donc ces étudiants ont vocation en fait à tourner. Donc ça reste
Ça dépend. On a de plus en plus d'informations sur et l'idée qu'ils ont vocation à tourner n'est pas du tout se vérifie pas du tout pour les mêmes d'une origine à l'autre. Et en fait, les durées de séjour sont toujours plus longues que ce qui est prévu. Donc, on ne peut pas, a priori, dire que ce ne sont pas des migrants sous prétexte qu'ils ont vocation à rentrer. Beaucoup ne rentrent pas ou rentrent très tardivement et certains suivent d'autres filières, se marient, entrent dans des activités professionnelles, etc.
Mais, ça gonfle quand même les chiffres.
Voilà. Alors, ça, c'est un des facteurs. C'est donc la mondialisation, notamment, des études. Enfin, ça gonfle les chiffres, ça contribue à les accroître. Mais, et la migration, il faut quand même le dire, elle a plusieurs facettes. Il y a le travail, la famille, les études, le refuge, la retraite. Il ne faut pas concentrer l'image de l'immigration uniquement sur la migration purement économique. Il y a 6 ou 7 facettes au moins possibles de la migration. Et souvent, d'ailleurs, elles se recouvrent, elles se recoupent. Donc, je crois qu'il est important d'avoir en tête que les études, c'est une des formes de migration parmi 7 ou 8 autres. Comme par exemple les migrations de retraite, qui sont extrêmement importantes de la part de certains pays du Nord vers les pays du Sud. Nous avons en France...
Et qui se font beaucoup de façon intra-européenne.
Pas uniquement. Vous prenez les Canadiens dans les Caraïbes qui passent leur retraite dans les Caraïbes. Vous prenez les Français qui, semble-t-il, de plus en plus passent leur retraite au Maroc, etc. Vous avez bien sûr les Anglais, mais qui ne sont plus des Européens maintenant, qui restent en France. Voilà encore un exemple de migration assez peu étudiée, malheureusement, alors qu'elle est très importante.
Alors justement, François Héran, quelles sont les provenances majeures de l'immigration européenne ?
Alors, l'immigration vers la... il faut être précis. L'immigration vers l'Union européenne, elle vient quand même beaucoup de l'Est de l'Europe. Hein, on a eu pendant longtemps un grand mouvement du Sud vers le Nord, de l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Grèce vers le Nord. Mais maintenant, le mouvement beaucoup plus important, c'est de l'Est vers l'Ouest. Par exemple, les Polonais, les Hongrois, les Slovaques ont été très très nombreux à migrer vers l'Angleterre. Ils ont été chassés par le Brexit. Ils se replient maintenant sur l'Allemagne, pas sur la France, très peu, hein, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs. On ne sommes pas très attractifs par rapport à l'Allemagne. Et donc, voilà, ce mouvement d'Est en Ouest, il est important.
Ça, c'est à l'intérieur de l'Union.
Alors non, ce n'est pas à l'intérieur de l'Union, parce que vous avez des populations comme les Roumains, les Bulgares, les Moldaves, etc., qui migrent également pas mal vers l'Union européenne sans appartenir à l'Union. Donc il y a un mouvement Est-Ouest qui déborde, qui traverse parfois les frontières de l'Union. Après, bien sûr, l'autre source de conflit, parce qu'on a parlé de mondialisation des études, l'autre source de migration, pardon, outre la mondialisation des études, c'est les conflits, c'est la multiplication des conflits. C'est les conflits du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique, en partie aussi de l'Afrique de l'Ouest, mais enfin à l'Asie aussi, on pense aux Rohingyas par exemple. Donc tout ceci génère, et puis bien sûr les Ukrainiens. Donc ce sont souvent des mouvements assez inattendus qu'on n'avait pas prédit, hein, qui avait prédit qu'il y aurait 6-7 millions d'Ukrainiens qui quitteraient leur pays, c'était impossible à prévoir. Et donc ça évidemment ça progresse très fortement, c'est un des grands facteurs. Et puis le dernier facteur de migration, il est très important, c'est ce qu'on appelle la bosse des migrations. C'est-à-dire que ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent le plus vers les pays les plus riches, ce sont les pays qui sont situés à un niveau intermédiaire de l'échelle du développement.
Et y compris les ressortissants de ces pays qui ne sont pas les plus pauvres.
C'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau collectif. Et donc des pays comme l'Algérie, qui est au niveau 6 ou 7 sur une échelle de développement à 10 niveaux, des pays comme les pays des Balkans, et les pays, la Géorgie, etc., tous ces pays-là, ils ont à la fois une forte aspiration à migrer, les ressortissants de ces pays, et les moyens de migrer, le début des
parce
moyens.
Parce que ça coûte relativement cher.
C'est quand même compliqué, puis il faut avoir et pas seulement les moyens, il faut aussi avoir des informations, il faut connaître le marché du travail, il faut avoir un certain capital, des compétences, etc.
Donc on se trompe quand on imagine
quand vous regardez les pays, quand vous représentez sous la forme d'un graphique, vous croisez les pays d'origine et les pays de destination, vous essayez de voir où sont les grandes quantités, eh bien, les pays les plus pauvres migrent d'abord vers les pays les plus pauvres. Vous avez les Burkinabés en Côte d'Ivoire, vous avez tous les réfugiés de l'Afrique de l'Ouest, du Congo, etc., vers les pays voisins. Vous avez les anciens Bantoustans vers l'Afrique du Sud. Enfin, les pays du niveau 1 ou 2, au plus bas de l'échelle du développement, migrent beaucoup entre eux. Et quand vous regardez l'exil lié au conflit, la majorité des exilés sont déplacés au sein de leur pays. Ceux qui sont ensuite un peu moins vulnérables sont plutôt dans les pays périphériques et seule une certaine élite arrive finalement à déposer une demande chez nous.
Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et comme de coutume dans cette émission, notre invité, vous François Héran, nous avez transmis une carte à commenter en direct ce soir. Celle que vous nous avez envoyée montre les dépôts de demandes d'asile dans les différents pays européens. Je rappelle à nos auditeurs qui le souhaitent qu'ils peuvent voir cette carte directement sur notre site internet ainsi que sur certains réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte et est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, c'est une carte produite par l'EUAA, c'est-à-dire l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, qui a été créée il y a 2 ans seulement. Elle est nouvelle, elle est chargée d'harmoniser les données, les pratiques, etc. sur la demande d'asile. Elle a son siège à Malte. Et elle publie maintenant un rapport annuel qui reprend les données d'Eurostat. Eurostat, c'est l'office statistique de la Commission européenne.
C'est l'INSEE au niveau européen, disons.
Voilà, c'est ça. Et donc, sur cette carte, on a représenté, c'est à peu près la seule... Alors là, j'ai pris l'executive summary, c'est-à-dire le résumé que le service de communication de l'agence a présenté. Il y a une seule carte dans ce résumé, c'est celle-là. Et c'est le nombre absolu de demandes d'asile représentées sur chaque pays par une trame de couleurs progressives, hein, de moins dense au plus dense. Et alors, bien sûr, on voit que l'Allemagne a le plus grand nombre de demandes d'asile. La France a l'air d'être juste en dessous. L'Espagne, c'est pas mal non plus. Et puis la Suède, l'Italie, mais bon, ensuite on a beaucoup de mal à voir. On voit bien que l'Europe centrale est
pas
très
grand
peu
monde
représentée.
Au Luxembourg, alors voilà. Vous nous avez dit le contraire tout à l'heure.
Oui, et puis cette carte, elle est assez amusante parce que les îles britanniques, le Royaume-Uni a disparu, est évaporé. Donc c'est une impression assez étrange de voir...
Il y a juste l'Irlande qui est
une île. Il y a juste l'Irlande qui n'est plus maintenant qu'une île au large de la Bretagne. Et puis l'Islande tout en haut, mais la Grande-Bretagne a disparu. Ben, elle a disparu à cause du Brexit, elle a disparu des statistiques, ce qui est d'ailleurs un gros problème, parce que c'est absurde de ne pas avoir les chiffres de la Grande-Bretagne quand on regarde les questions européennes. Et ça complique la tâche des chercheurs, hein, c'est certain. Alors en fait, le grand problème d'une telle carte, c'est que ces chiffres absolus ne veulent rien dire. Il faut, pour pouvoir comparer la pression qui s'exerce sur chaque pays européen, ben il faut regarder, il faut rapporter ça à la population. Mmh. Pour 10 000 habitants, pour 1 000 habitants, peu importe la référence, quelle est l'intensité, la pression.
Et donc là, on verrait que le Luxembourg serait en bleu très très foncé et la France d'un bleu beaucoup plus clair.
Ah ben, la France se retrouve en dessous, très, très largement en dessous de la moyenne du classement européen. Donc, certes, nous recevons beaucoup de demandes et beaucoup de. Parce que nous sommes un grand pays et donc les chiffres absolus en imposent à bon compte. Mais dans le débat politique, je plaide pour qu'on ait des chiffres relatifs et je fais une comparaison avec toutes les statistiques du Covid. Parce que pendant le Covid, on a eu des leçons de statistiques extraordinaires. Rappelez-vous, Le Monde avait 4 ou 5 journalistes qui, chaque jour, nous donnaient la progression de la pandémie. Et c'était toujours des chiffres relatifs. Combien de nouveaux cas en une semaine entre les départements, pour comparer les départements, comparer les pays? On ne peut pas imaginer que dans le domaine de la santé publique, on n'utilise pas des chiffres relatifs. Eh bien, dans le domaine de la migration, qui pose techniquement exactement le même problème, c'est absolument scandaleux. Le débat public roule la plupart du temps sur des chiffres absolus, alors que les comparaisons devraient se faire logiquement en chiffres relatifs.
Mais est-ce que vous diriez que ça compte beaucoup dans la campagne, par exemple, des européennes, que ces chiffres qui, en effet, du coup, se paraissent comme ça isolés, avec des comparaisons par rapport à des villes, par exemple. On dit il y a autant d'étrangers que
la ville
de Rennes.
Voilà, oui, exactement. De nouvelles arrivées chaque année. Écoutez, c'est pas seulement la campagne des européennes. On l'a vu dans tout l'argumentaire qui a appuyé au Sénat le débat sur la loi Darmanin. Des propos, enfin, comme ceux de Bruno Retailleau, de M. Larcher, etc., disant « La France détient le record d'Europe de la demande d'asile ». Ces chiffres sont totalement faux. Il faut quand même le dire avec force. Dès que vous raisonnez en proportion, vu sa population, vu son PIB,
en valeur absolue également, d'ailleurs.
La France n'a jamais été en tête de la demande d'asile, jamais. Et donc, alors, je le répète, X fois, c'est une partie de mon message, je constate qu'une partie non négligeable du milieu journalistique ou de la classe politique a pris conscience de cette nécessité importante de raisonner en proportion et pas simplement en chiffres absolus. Mais enfin, à droite, on impressionne à bon compte en maniant des chiffres absolus.
Mais là, vous parlez quand même d'une carte qui vient donc de l'équivalent de l'INSEE. Alors, au niveau européen, alors oui, pourquoi est-ce que cette carte, les cartographes ne sont pas au courant de ce que vous dites dans cette institution?
Alors, quand on regarde le rapport complet, non pas l'exécutif summary, mais le rapport, l'exécutif summary, ce résumé, il est fait par l'agence de communication. Mais quand vous regardez le rapport complet, donc là vous avez effectivement des chiffres proportionnels. Ils apparaissent quand même très loin dans le rapport. Il faut attendre la page 91 du rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile pour qu'apparaissent enfin les chiffres relatifs et qu'on s'aperçoive que la France occupe une position très médiocre dans l'ensemble. Donc il y a un début de prise de conscience de cette affaire, parce que tout le monde sait dans le milieu de la recherche quantitative qu'il faut procéder ainsi, mais la pression politique est telle que il y a encore ce goût pour les chiffres absolus qui l'emporte.
Alors on peut prendre quelques exemples avec vous, François Héran, de l'accueil d'un certain nombre de réfugiés ces dernières années par pays. Prenons les réfugiés syriens. L'Union européenne a accueilli 1,25 million de réfugiés syriens. L'Allemagne en a accueilli 645 000 et la France en a accueilli 36 000. 1860. Vous sur la disproportion.
Quand on actualise les derniers chiffres, c'est 36 000 et quelques deviennent quasiment 40 000. On se rapproche de 40 000. Et dans le même temps, combien y a-t-il de réfugiés syriens en Turquie ? Il y en a 4 millions. C'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus. 100 fois plus de réfugiés syriens en Turquie qu'en France. Ça donne quand même... Et quand on se croit envahi par les Syriens, c'est quand même les expressions qui ont été utilisées en 2015-2016, on est très très loin du compte. Donc il faut le rappeler toujours, il y a les déplacés internes donc au sein de leur propre pays, quand on prend les exilés syriens, mais c'est la même chose pour les Irakiens, pour les Afghans ou pour les Ukrainiens. Et ensuite, ceux qui arrivent à une bonne partie survivent dans les camps et rongent leurs freins dans les camps de l'ONU qui sont dans les pays limitrophes. Et il n'y en a que 20% peut-être de tous les déplacés externes qui arrivent à déposer une demande. Et parmi ces 20%, l'Allemagne en a pris la moitié et nous seulement 5%.
Alors sur les Irakiens que vous mentionnez à l'instant, François Héran, même chose, 400 000 demandes d'asile dans l'UE, 193 000 accueillis en Allemagne et 14 000 en France.
Oui, c'est vraiment les mêmes proportions. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il s'est passé, la même chose avec les Ukrainiens. Alors qu'on a l'impression, c'est pas une impression, on a effectivement accompli un effort considérable pour les Ukrainiens. Un préfet a été nommé pour s'en occuper.
Il y a une vraie politique d'accueil en tous les cas.
Une vraie politique d'accueil. Il y a eu une protection temporaire accordée aux Ukrainiens. Ils ont eu le droit à l'allocation pour demande d'asile, même s'ils n'étaient pas demandeurs d'asile, etc. Bon, une énorme publicité a été faite à leur endroit, traduite dans leur langue. Enfin bon, ce qu'on n'avait jamais vu pour les autres groupes. Le seul précédent qu'on connu, c'est l'accueil des boat people dans les années 70, où là, il y avait un effort considérable qui avait été fait.
Même un certain enthousiasme aussi de la population.
Je rappelle que l'accueil des boat people, c'était... on leur a payé le billet d'avion, aux gens qui sont venus de l'Extrême-Orient, quand même. Hein. Et on leur a donné des postes réservés, des formations réservées. L'Agence pour l'emploi de l'époque avait une filière spéciale pour les gens
qui
venaient d'Asie, etc.
À
l'époque, c'était la lutte contre le communisme finissant, c'était la découverte bouleversante que le communisme avait ravagé les peuples et donc il fallait se donner une image d'accueil et de magistère moral très importante et puis on avait le sentiment qu'ils allaient pouvoir s'intégrer sans problème, donc les paroisses ont beaucoup participé à l'accueil des boat people. C'est assez tardivement d'ailleurs qu'on s'est mis à faire des recherches sur l'accueil des boat people, sur la législation complètement d'exception qui leur a été réservée.
Qui correspond à un sentiment populaire aussi.
À l'époque, on avait moins d'informations sur les sentiments populaires. On ne faisait pas tous les deux jours des sondages sur l'immigration. Mais manifestement, oui, il y avait le soutien de l'opinion publique. Un autre exemple d'accueil qui a été très important, là aussi les chercheurs contredisent un peu, c'est les rapatriés. Les rapatriés ont bénéficié de mesures extrêmement favorables. Il y avait tout un plan qui a été vraiment mis en œuvre, consistant à assurer aux rapatriés l'équivalent du patrimoine qu'ils avaient perdu en Algérie, l'équivalent du métier, etc. C'était proportionnel aux revenus et au patrimoine de départ, ce qui est tout à fait étonnant.
Oui, ils étaient membres de la communauté française, donc c'est...
Oui, bien sûr, mais enfin, très souvent, la moitié d'entre eux n'étaient pas vraiment d'origine française, hein, c'était tout le bassin méditerranéen qui avait alimenté la colonisation. Donc là aussi, c'est un peu... Mais c'est vrai que c'est un exemple un peu limite, enfin, c'est quand même une forme de migration... Un mi-chemin entre l'interne et l'externe. Oui.
Et donc les Ukrainiens, 1,2 million vont en Allemagne et 100 000 seulement en France,
oui,
alors qu'ils sont en théorie bien accueillis. Pour quelles raisons?
Alors on a atteint le chiffre de 110 000 au cours de l'été, dans l'été de la première année de la guerre. Et puis il fallait qu'ils renouvellent leur demande pendant l'été, justement. Et là, ils se sont retrouvés, sont passés, redescendus de 110 000 à 70 000, donc une chute de 40%. Et parce que beaucoup sont rentrés chez eux, mais qu'aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, ils se sont répartis en Europe en fonction de l'existence des diasporas qui existaient déjà. Mm-hmm. Et donc, ce que j'explique, c'est que les migrants ont eux-mêmes leurs préférences. Hein, tout n'est pas, ne dépend pas de la bonne volonté de l'État. Et ce sont les diasporas qui ont pris leur part de l'accueil et pas les...
Pas les États.
Voilà. Et la part, qu'est-ce que c'est? Ben, je répète, la France, c'est à peu près 18% du PIB européen, c'est à peu près 15% de sa population. C'est ce genre de chiffre qui devrait correspondre à la part que nous prenons dans l'accueil des exilés ou des étrangers.
Mais alors même au-delà de la question du groupe ukrainien, la France, dites-vous François Héran, n'est pas attractive. Elle est à la 25e place sur 31 des pays de destination choisie. Pour quelle raison la France n'est-elle pas attractive alors que on considère qu'elle a un système social
Ce chiffre concerne de l'attractivité par rapport aux autres Européens, aux autres ressortissants de l'Union européenne. Parce que c'est évidemment une épreuve un peu cruelle. Quand des populations ont le droit de s'établir chez nous, sans aucun visa, durablement, est-ce qu'elles en profitent? Est-ce que la France est à ce point attirante que ces populations vont venir chez nous? On constate l'inverse. Et un vrai débat aujourd'hui, ce n'est pas du tout le débat actuel, le centre du débat public, mais c'est pourquoi la France est-elle si peu attractive, y compris pour des populations qui pourraient parfaitement s'établir.
Donc vous voulez dire les membres de l'Union européenne?
Les membres de l'Union européenne. Mais on le constate aussi avec les Syriens, les Irakiens, les Afghans, même les Afghans avec qui nous avions des liens plus forts que par exemple les Allemands. Eh bien les Allemands ont pris 30% à peu près des Afghans qui ont déposé une demande chez eux, enfin en Europe, et nous de 8%, 9%. Donc c'est un peu mieux que pour les Syriens, mais enfin ça reste quand même très très. Alors, nous ne sommes pas si attirants. Bon, d'abord, parce que nous ne sommes pas aussi prospères que l'Allemagne. Notre PIB est un peu au-dessus de la moyenne de l'Europe, mais pas tellement plus. Nous ne sommes pas assez anglophones pour attirer des migrants qui, très souvent, venant par exemple d'Europe centrale, se débrouillent en anglais, mais pas du tout en français. Et puis, voilà, notre politique d'accueil n'est pas... n'est pas quand même très très organisé par rapport à l'Allemagne qui a tout ce système fédéral de répartition de la charge entre les différentes composantes. Là, bon, je ne dis pas que tout s'est bien passé en Allemagne. Hein. La répartition de la charge entre les communes et les Länder a été compliquée. Beaucoup de communes se sont plaintes que l'État ne les aidait pas suffisamment. Mais au total, ils ont quand même la répartition de la charge a été très très organisée.
Puis aussi les paroisses, parfois même des entreprises qui prennent en charge l'accueil des migrants.
Il y a un système humanitaire en Allemagne beaucoup plus puissant qu'en France. Ça, c'est lié notamment, mais pas uniquement, au concordat, au fait que les Allemands paient un impôt ecclésiastique dans des proportions très importantes et que cet impôt ecclésiastique va alimenter le secours catholique allemand, Caritas, beaucoup plus puissant que le secours catholique français, hein, qui est la version française de Caritas, et la diaconie, qui est son concurrent protestant, et la rivalité entre les deux, entre Caritas et la diaconie, aussi aide à aviver l'aide humanitaire.
Donc il n'y a pas d'appel d'air en France particulier qui serait dû à un système social généreux ou à l'aide médicale d'État.
Alors,
dont
ça,
on a beaucoup
c'est
parlé
le discours
récemment.
C'est le discours qui a été très, très... qu'on a entendu très très souvent pendant tous ces derniers mois, ces dernières années. La fondation Fondapol, par exemple, en a beaucoup parlé. Vous pouvez calculer que l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, par personne, en fonction de la disposition d'un logement ou pas, etc., est un peu plus élevée en Allemagne qu'en France. Vous pouvez calculer que les allocations familiales, par exemple, seraient plus importantes en France qu'en tel autre pays, etc. Mais il ne suffit pas de faire ce genre de constat pour dire qu'automatiquement, les immigrés vont être attirés par ces surcroît et vont venir. Non, la seule démonstration possible de l'attractivité de tous ces dispositifs, c'est ce qu'on appelle en économie les préférences révélées. Où les migrants se sont-ils vraiment dirigés? Quels sont les pays qu'ils ont vraiment choisis? Et si vraiment les dispositifs légaux d'accueil, par exemple le droit du sol, etc., étaient l'information fondamentale que les migrants prenaient en compte pour choisir leur destination, on aurait un résultat totalement différent.
This is my testimony. We could no longer stay in Nigeria. Many were dying. Mosques were bombed. Churches were bombed. And we flee from Nigeria. We ran to the desert. We were in Shahada desert and many died. In Shahada desert and many were dying. bombers were killing many people and we could not stay. We flee to Libya. And Libya was a city of crisis. And Libya was a place not to stay. We cried on our knees. What shall we do? The mountains could not hide us. The people could not hide us. And we run to the sea.
France Culture, Géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors ça, c'est un extrait du film Fuoco Amare, Par-delà Lampedusa, un film de Gianfranco Rosi. Et cette scène où un jeune homme raconte, dans une sorte de slam, tous les endroits que lui et ses compagnons d'infortune ont dû traverser avant d'arriver en Europe, et aussi combien parmi eux sont morts en chemin, parce qu'il n'y a pas que la Méditerranée qui tue, il y a le désert qui tue aussi. Quelles sont les grandes routes migratoires aujourd'hui qui conduisent vers l'Europe, François Héran?
Eh bien, il y a les routes qui viennent de l'Est et les routes qui viennent du Sud. Et elles passent par des pays de transit qui sont extrêmement durs aux immigrés. La frontière algérienne, c'est épouvantable, parce qu'il y a un racket sans nom. La Libye, n'en parlons pas. Tous ceux qui évoquent le passage par la Libye expliquent à quel point c'est un enfer. Alors ensuite, toutes ces routes changent, évoluent, parce que lorsqu'une route est barrée, les gens trouvent aussitôt un autre passage. Bon, voilà, il y a des moments où les Canaries se ferment, d'autres où les Canaries sont de nouveau utilisées. L'Angleterre, on a pu espérer à un certain moment qu'on allait limiter le nombre des sorties, mais finalement on ne l'a pas fait. Je rappelle que l'Angleterre, c'est quand même un cas très particulier, le Calaisier, parce que là, la France fait quelque chose d'incroyable. Nous empêchons les migrants de quitter notre pays pour nous les empêchons de gagner un autre pays. Oui, nous les retenons sur notre sol parce que nous sous-traitons docilement la politique de contrôle des Anglais.
Mais la France fait la même chose avec l'Italie. Voilà. Et l'Union européenne, globalement, a fait la même chose.
C'est ce que j'appelle la cascade. L'Angleterre compte sur la France. La France aimerait bien
compter
sur l'Italie.
Pourquoi ça fonctionne comme ça, d'ailleurs?
L'Italie veut compter sur la Tunisie, etc. Et comme par hasard, cette cascade, elle va du nord au sud. C'est toujours les pays du sud qui devraient se charger de sous-traiter pour vous le traitement de la frontière. Et c'est ce que le pacte européen d'immigration était censé corriger, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette cascade et que tous les pays participent au même mouvement. Je ne pense pas qu'on va y arriver.
Mais qu'est-ce que ça crée finalement? Par exemple, en Turquie, vous disiez, il y a énormément de réfugiés syriens. 8 milliards d'euros ont été donnés à l'État turc pour qu'il s'occupe de ne pas laisser passer finalement les Syriens.
Alors,
dans l'Union
européenne. Ça a été efficace puisque effectivement, au cours du printemps et de l'été 2016, donc dans la deuxième année de l'afflux immigrant syrien, il y a eu une chute formidable de la demande d'asile en Allemagne. Elle a remonté depuis, elle remonte, et l'Allemagne a repris de nouveau la tête, parce que le mouvement est trop fort, hein, c'est quand même, et puis les besoins existent.
Vous dites que le mouvement est trop fort, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout trop d'immigration en Allemagne, par exemple.
L'idée qu'on puisse diviser par deux ou par trois un mouvement migratoire, alors que ce mouvement progresse dans le monde entier de 60% depuis 20 ans, c'est complètement absurde. Enfin, ça, il y a quelque chose d'irrationnel. On vend une illusion à l'électorat quand on lui offre, quand on prétend, n'est-ce pas, lui garantir une réduction drastique de l'immigration et a fortiori une réduction drastique de l'accueil des exilés. Enfin, il faut quand même être réaliste. Il faut juger aux résultats. Moi, je ne fais pas d'idéologie quand j'évoque tout ça. Je dis, mais nous avons maintenant suffisamment de recul pour pouvoir juger aux résultats et voir que des politiques uniquement restrictives ne marchent pas. Donc il faut des politiques qui, certes, puissent être sélectives, régulatrices, sans doute. Moi, je ne suis pas no border, je ne suis pas non plus, et certains amis de gauche ou d'extrême gauche s'en émeuvent, mais je ne suis pas non plus pour l'accueil inconditionnel. Je ne pense pas que ce soit un argument qu'on puisse suivre. Bon, le Gisti, par exemple, est sur cette ligne-là. Moi, je ne le pense pas. pense pas.
Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas, finalement, ouvrir les frontières et accueillir de façon inconditionnelle
Mais écoutez, y a le problème, il a été très bien traité dans une publication qui est un petit peu ancienne maintenant, mais qui vaut toujours, de l'UNESCO, qui avait convoqué un certain nombre de chercheurs de tous les continents pour essayer de voir ce que donnerait un scénario d'immigration sans frontières. C'est les anticipations faites par ces chercheurs sont extrêmement contradictoires. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte pour qu'on soit capable de prédire ce que donnerait un système.
Donc sur les systèmes sociaux,
Et les quelques exemples qu'on a qui touchent des pays assez restreints sont pas très convaincants. Enfin, moi, je ne suis pas convaincu, même si je connais de jeunes chercheurs qui veulent me contredire là-dessus. Alors sur les systèmes sociaux, non. Là, je pense que alors c'est une grande idée, d'abord américaine et puis britannique, que l'accueil de l'immigration de façon générale serait incompatible avec le maintien de la
protection
sociale, de la protection sociale. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le welfare magnet, c'est-à-dire l'effet magnétique, l'appel d'air. Au fond, le magnet, c'est l'équivalent de l'appel d'air, lié à la générosité de la protection sociale. Le problème, c'est que quand on regarde comment les pays se distribuent en fonction de la générosité de la protection sociale et le rapport que ça a avec l'immigration, ben, ça ne colle pas. Les pays très peu généreux en protection sociale, comme l'Espagne ou les États-Unis, ont été parmi les plus grands pays d'immigration ces dernières décennies. Donc, voilà, en fait, les migrants sont aussi des contribuants, sont aussi des cotisants, sont très resserrés dans les âges actifs, même s'ils ont un taux de chômage supérieur à la moyenne, ils sont très resserrés dans les âges actifs et donc ils ne coûtent pas tellement budget public. Et ça, les économistes l'ont montré à plusieurs reprises.
François Héran, on a parlé en début de cette émission du pacte européen asile et migration qui a été voté hier par le Parlement. Mais au fond, quelles sont les prérogatives qui dépendent en la matière de l'Europe et qu'est-ce qui dépend des États européens ? Ce n'est pas toujours évident là non plus de s'y retrouver.
Alors il faut rappeler que juridiquement, un pacte n'est pas contraignant. Ça n'est pas un traité multilatéral ou bilatéral.
Les États qui décident, in fine.
Ce sont les États qui sont fortement incités, engagés à harmoniser leurs pratiques, à entrer dans un système de répartition égale, etc. Mais enfin, certains pays ont déjà annoncé qu'ils ne suivraient absolument pas le pacte, c'est le cas de la Hongrie. Ils ne seront pas punis pour autant. Donc, ce pacte a une valeur symbolique évidemment forte, mais... Il n'a pas de valeur très, très contraignante parce que les pays tiennent à garder leur souveraineté sur la politique migratoire. Ça, c'est la grande idée, c'est que, restons chez nous et c'est comme ça qu'on sera plus souverain.
Donc Frontex, par exemple, est géré au niveau européen, mais par les États eux-mêmes.
Alors, Frontex est une des rares organisations qui soit effectivement authentiquement européenne. Bon, qui a quand même posé beaucoup de problèmes parce que certains pays comme la Grèce n'admettent pas si facilement que ça que des policiers étrangers leur disent comment faire.
Mais ils ont le droit de se déplacer, les policiers de Frontex, sur tout le territoire de l'Union européenne.
Absolument.
Ils peuvent aller en Hongrie aussi, si ça leur chante,
ou
en Pologne.
Oui, tout à fait. C'est le principe. C'est le principe. Mais bon, pour les polices locales, c'est pas toujours évident. Alors, c'est un peu compliqué parce que certains pays se plaignent de ne pas être suffisamment aidés, mais en même temps, supportent mal qu'on mette le nez dans leurs pratiques. Donc, voilà un peu le problème de Frontex. Et du coup, les méthodes de Frontex ont été quand même pas mal critiquées.
Qu'est-ce que c'est que les Dublinés, terme qu'on entend très souvent dans les médias, François Héran, à quoi ça correspond ?
Alors, les Dublinés, ce sont des gens qui, en vertu des règlements de Dublin, il y en a eu plusieurs, mais enfin, on évoque surtout le troisième règlement de Dublin, consiste à dire, ben voilà, il ne faut pas, comme ça se passait autrefois, il ne faut pas qu'un demandeur d'asile puisse déposer plusieurs demandes dans plusieurs pays à la fois. Un seul pays doit pouvoir traiter la demande. Et comment désigne-t-on ce pays ? Eh bien, c'est le premier pays dans lequel l'intéressé est entré.
Donc c'est une question administrative.
Il a été enregistré. Oui, à l'origine, c'est une question administrative, mais il faut bien voir que Donc, si par exemple quelqu'un qui est entré par la Grèce se retrouve en France, les Français sont censés le renvoyer en Grèce. Bon. Mm. Ou sont entrés par la Belgique, on va les renvoyer à la Belgique. Et donc, alors, ces renvois marchent très peu parce que les pays à qui on dit qu'il faut, voilà, qui acceptent, l'Italie par exemple, refuse les Dublinés qu'on lui envoie depuis la Belgique ou l'Allemagne. Et les pays en question se sont exprimés solennellement pour reprocher à l'Italie de ne pas jouer le jeu. Donc l'Italie, c'est un pays étrange parce qu'ils se plaignent beaucoup du manque de solidarité de l'Europe du Nord, mais en même temps, ils ont très mal enregistré les migrants et les ont refilés aux pays du Nord. Donc ils se sont défaussés beaucoup sur les pays du Nord. Donc vous voyez que alors on sait par exemple que les Dublinés de la France vers l'Allemagne sont aussi nombreux que les Dublinés de l'Allemagne vers la France.
Donc ça paraît un peu aberrant quand même de faire circuler comme ça des gens au sein de l'Union européenne.
Tout le monde sait depuis longtemps. Il y a même eu une motion du Parlement européen pour dénoncer le système de Dublin et dire que ça ne marchait pas, que c'était un gâchis d'énergie énorme. Mais par quoi le remplacer ? On ne peut le remplacer que par un système de répartition équitable de la charge entre tous les pays européens.
Donc un petit peu été prévu hier par le Parlement.
Mais justement, ça avait été prévu par Juncker et rejeté. Et donc ce qui est prévu, c'est un système où ceux qui sont contre n'ont qu'à financer des murs, des barrières, des postes de police. Et c'est comme ça que les pays seraient soi-disant solidaires.
Le Portugal, terre d'accueil aujourd'hui en Europe pour de nombreux migrants. En 5 ans, le nombre d'étrangers a ainsi doublé. Un peu moins de 500 000 en 2018, 1 million l'an dernier selon des chiffres officiels. C'est presque un Portugais sur 10. À Lisbonne, dans les bureaux de cette association, le nombre de demandeurs étrangers à chercher un emploi est en constante augmentation. En moyenne, une centaine par jour. Car la politique migratoire au Portugal est parmi les plus ouvertes sur le continent européen.
Dans aucun autre pays, il n'existe d'équivalent à ce que propose la loi portugaise, arrachée après un long combat au Parlement. Cette loi donne la possibilité aux migrants de pouvoir régulariser leur situation à condition d'avoir un travail. Le travail est le facteur structurant pour les migrants.
Autre explication à cet accueil généreux, le vieillissement de la population.
La fécondité nationale n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de main-d'œuvre de l'économie, et ce pour les 30 à 40 prochaines années.
Aujourd'hui, les Brésiliens restent le premier contingent immigré au Portugal, mais les Indiens et les Asiatiques sont de plus en plus nombreux.
Alors, je le disais en introduction, l'extrême droite a fait une percée au Portugal aux dernières élections. Chega est à 18%, c'est la troisième force au Parlement. Parallèlement, le Portugal est présenté dans ce documentaire de France 3, dans ce reportage de France 3, comme un pays très ouvert sur l'immigration. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre la montée de l'extrême droite et l'ouverture plus ou moins grande des pays à l'immigration, François Héran, ou est-ce que on est finalement dans d'autres... Il y a d'autres choses qui se jouent.
Alors, ça joue, mais ce n'est pas la seule chose qui joue. On a eu une étude très intéressante faite par Hervé Lebras, qui a, dans un livre, il y a quelques années, a étudié de façon très précise la montée de l'extrême droite dans tous les électorats depuis, je crois, 2 ou 3 décennies. Et on voit que ce n'est pas toujours lié à l'immigration. Par exemple, si l'extrême droite a fait une progression phénoménale en Espagne, c'est à cause de la question de l'unité nationale, du séparatisme catalan, etc. Et l'immigration n'était pas au départ le premier facteur de pousser l'extrême droite. Et on peut retrouver ce genre de problème dans plusieurs pays. Mais c'est vrai que je pense que des pays comme la Suède, qui ont été extrêmement généreux pendant des années, la Suède est à peu près le seul pays qui, avant 2015, acceptait finalement la demande du HCR d'accueillir des Afghans, d'accueillir des Érythréens, etc. Et donc, ils ont, en proportion, été ceux qui ont poussé le plus haut l'intensité de l'accueil. Et du coup, voyant que ils étaient les seuls bons élèves et que les restes des pays européens ne suivaient pas, ils ont décidé de restreindre leur effort avant même que l'extrême droite prennent le pouvoir dans ce pays. Donc,
oui. Mais il y a avant, une conséquence pour vous.
Est-ce avant le, ah ben il y a des liens qui sont un peu complexes, mais ils existent. Moi, ça me semble évident. Donc, l'argumentaire de Madame Meloni pour être élue, c'est nous, alors, qui est largement faux objectivement. Enfin bon, c'est nous n'avons pas été aidés par l'Europe. L'Europe n'a pas été solidaire, alors qu'en fait l'Italie s'est beaucoup défaussée sur l'Europe du Nord. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Il y a un côté comédiante et tragédiante hein, dans l'attitude italienne. Mais oui, ça a été son argumentaire pour dire l'Europe nous refile ces migrants et donc ça retombe sur nous. Et l'idée, non seulement la migration évidemment suscite des réticences, c'est-à-dire les autres sont de trop. Bon, ça c'est l'attitude, le fond commun de l'attitude. Mais si en plus on a le sentiment que ces autres sont répartis de façon injuste et qu'on vous refile le bébé, alors là, le sentiment national, évidemment, est exacerbé, et oui, c'est bien aussi sur ce genre de choses que... Et puis l'autre, que jouent les extrêmes, l'autre dossier, mais enfin que c'est assez proche, c'est aussi, ils viennent nous prendre, ils viennent mordre dans le gâteau de la protection sociale.
Même si, par exemple, dans un certain nombre de pays, et le Portugal en fait sans doute partie, il y a aussi une immigration intra-européenne de gens riches, pour le coup, qui se retrouvent peut-être finalement oui, dans les urnes de l'extrême droite, parce qu'ils sont considérés comme faisant monter les prix, par exemple,
oui, dans bah, ces pays-là. Oui, c'est le problème foncier à Lisbonne, qui est une ville très attirante, qui a longtemps été la capitale la moins chère dans toute l'Europe. On savait que quand on voulait organiser un colloque à bon marché, c'était à Lisbonne qu'il fallait aller, hein, un colloque à l'étranger. Bon. Donc oui, il y a aussi tous ces problèmes de marché foncier qui se jouent évidemment un
rôle. Donc parfois important. L'immigration qui pose problème n'est pas toujours l'immigration la plus pauvre.
Non, mais il faut bien se rappeler, quand on regarde les chiffres à l'échelle mondiale, il y a une très forte migration entre les pays riches. Hein. Vous prenez par exemple la migration à Londres, la migration britannique, il y a une circulation entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Angleterre et l'Irlande, qui est une migration très riche. Et quand vous confrontez l'intensité des flux avec la différence de développement entre le pays de départ et le pays d'arrivée, ben vous apercevez que parmi les zones qui ont le plus de migration au monde, c'est les zones les plus riches, une migration interne. Donc il ne faut pas s'imaginer que les plus pauvres des plus pauvres migrent vers les plus riches et une partie des problèmes de effectivement de pression sur le logement par exemple, etc., viennent de gens qui ne sont pas ne représentent pas la misère du monde.
Alors vous expliquez aussi, François Héran, que par exemple en Allemagne, c'est plutôt dans l'Allemagne de l'Est qu'il y a le rejet le plus fort des migrants, alors que les migrants sont dans l'Allemagne de l'Ouest.
Oui, ça c'est un paradoxe, pour reprendre une phrase inspirée d'un slogan de Mitterrand, les immigrés sont à l'Ouest et les anti-immigrés sont à l'Est. Il y avait des différences considérables. Alors, elles se sont un petit peu atténuées, mais même le plan de répartition équitable des demandeurs d'asile entre les différents lenders a tenu compte de la réticence des anciens lenders. Et ça, c'est une question fondamentale, parce que quand on n'est pas habitué à l'immigration, quand on n'est pas habitué...
Ce qui était le cas des pays de l'ex-URSS, où il y avait une homogénéité très grande, puisque les frontières étaient fermées.
Les pays du système soviétique étaient fermés, le système communiste a enfermé les peuples pendant des décennies, et donc ne les a pas habitués à la migration. Il y a eu vers la fin, en Allemagne de l'Est, une certaine migration, mais enfin, c'était des gens du Mozambique, du Vietnam, etc. Ils étaient soigneusement mis à part, un peu comme dans les pays du Golfe. Donc, il n'y avait pas de politique d'intégration, le regroupement familial était strictement interdit, etc. Donc, l'absence de familiarité avec la migration a effectivement caractérisé notamment l'Allemagne de l'Est, et dès qu'on a commencé à voir apparaître un centre d'accueil, etc., la population s'est émue. Ça, c'est... Bon, c'est ce qu'on appelle... Il y a deux théories pour expliquer le rapport à la migration. Hein. Il y a la théorie du seuil et il y a la théorie du contact. La théorie du seuil, c'est la vieille idée que plus il y a de migrants, plus on s'approche d'un seuil où ça devient intolérable. Et à ce moment-là, ça déclenche une attitude xénophobe. Et puis l'autre théorie, qui est en fait la seule vérifiée expérimentalement, c'est ce qu'on appelle la théorie du contact. Lorsque deux populations différentes, ça peut être simplement les hommes et les femmes, ça peut être toutes sortes de différences, mais enfin, ça a été testé mais des centaines de fois dans des expériences de psychologie expérimentale, quand deux populations différentes travaillent ensemble, vivent ensemble, se fréquentent, etc., eh bien le niveau de tolérance augmente. Et je pense que c'est très frappant de voir que chez les jeunes, par exemple, en France, contrairement à ce qu'on raconte, les enquêtes comme celle de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, montrent une progression de la tolérance par rapport aux anciennes générations qui, elles, n'ont pas été habituées à vivre dans un monde plus divers que plus divers.
Et on pourrait ajouter que dans les grandes villes, où il y a plus de mélange, c'est pas là que vous allez trouver les votes les plus forts pour l'extrême droite, parce que il y a beaucoup de contacts. Merci beaucoup, François Errand. On se quitte sur quelques mesures de Lampedusa par Toumani et Sidiki Diabaté. Et c'est pour moi le moment de vous remercier, de rappeler que votre dernier ouvrage s'appelle Immigration, le grand déni, et qu'il a paru aux éditions du Seuil. C'était Géographie à la carte. Merci à Anne-Vanessa Prévost, Lise Combe et Sébastien Royer pour respectivement la préparation, la réalisation et la technique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler des populismes en Amérique latine. Nous serons en compagnie d'Olivier Daben. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le retour du cours de l'histoire.